Turning today to the Gospel of John, chapter 1 and verse 1.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et notre sujet ce matin, c'est la lumière de Christ. Et Dieu voulant, je commencerai une étude dans cet évangile de Jean. Un livre si simple, très simple, dans son langage et les termes utilisés, et si spirituel, si profond dans son contenu. Ici, dans les premiers versets, les 14 premiers versets du chapitre que j'aimerais expliquer très simplement ce matin, il y a là un prologue merveilleux dans cet évangile de Jean. C'est comme une introduction pour ouvrir, pour commencer ce livre, comme une composition, une œuvre musicale, un début pour introduire ces mélodies qui seront développées plus tard dans l'œuvre principale. Et c'est là ce qui se passe dans ces premiers versets. La musique de tout l'évangile est là, introduit dans ce premier chapitre. Et c'est une ouverture extraordinaire, une introduction extraordinaire. L'apôtre Jean, l'un des trois qui faisait partie du cercle intime de Christ parmi les disciples, lui qui se mentionne jamais lui-même, l'évangile de Jean est clairement le dernier qui a été écrit. Et Jean, en écrivant ceci, pense que vous connaissez déjà Matthieu, Marc et Luc. Il ne répète rien qui est déjà dans les autres évangiles, mais il parle comme si vous étiez conscient de ces autres évangiles. Vous les connaissez parce que Jean est inspiré pour écrire son évangile avec beaucoup d'analyses qui prouvent que Jésus est le Christ, pour montrer la profondeur du message de l'évangile et pour montrer ce que c'est réellement que cette union avec Christ. Il est clairement un témoin oculaire. Il y a beaucoup de ces choses mentionnées dans l'évangile de Jean qui ne sont pas mentionnées dans les autres évangiles. L'évangile de Jean vous donne exactement le moment où certains événements se sont passés. Cet évangile est clairement écrit par l'apôtre Jean qui est un témoin oculaire. Mais je ne vais pas aller dans les détails techniques, mais parler tout de suite de cet évangile extraordinaire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est plein de doctrines essentielles, qui montrent ces concepts extraordinaires de la foi, ce dont nous avons besoin, exactement ce dont nous avons besoin pour réaliser nos privilèges en Christ et pour être encouragés et élevés presque jusqu'au ciel. Et j'aimerais parler de ces 14 premiers versets pour montrer comment ceci est une belle préface pour introduire ces belles choses de l'évangile de Jean. Au premier verset, Christ est la parole. Au commencement était la parole. Au commencement, cela se réfère clairement à la création. Mais ce que l'apôtre Jean nous dit ici, c'est que Christ était bien sûr déjà là. Au commencement était la parole. Et par lui, il dira, la création a été faite. Et c'est sa manière de nous parler de la préexistence de Christ, qui est Dieu, qui est éternellement Dieu, qui a toujours été. Au commencement était la parole. Ce terme « parole », nous savons que Jean Calvin a toujours essayé de nous persuader d'utiliser ce terme de parole, de logos, mais nos traducteurs ont utilisé ce terme parole. Mais Jean Calvin préférait ce terme langage, qui souligne ce terme que Christ, la deuxième personne de la Trinité glorieuse, égale à Dieu le Père et égale au Saint-Esprit, qui est également Dieu et qui partage tous les attributs de Dieu, était celui, le membre de la Trinité, qui se révèle à l'être humain et qui communique dans des termes que nous pouvons comprendre. Au commencement était la parole ou le langage. Christ est celui qui révèle la Trinité à l'être humain, qui révèle toutes choses. L'auteur de la parole de Dieu est celui qui va se révéler personnellement quand il est venu dans ce monde. Et au commencement, il était là, il préexistait avant la création, il a toujours été, au commencement était la parole était avec Dieu. Vous pourriez traduire ceci par « face à face avec Dieu », la parole était avec Dieu. Ceci parle de l'intimité entre le Père et le Fils, et bien sûr le Saint-Esprit également. Parce qu'il y a une seule essence divine, un seul Dieu, et d'une manière mystérieuse, trois personnes dans cette Trinité qui partagent cette intimité proche, cette communion et ses attributs. Au commencement était la parole, c'est Christ, la parole était avec Dieu, entièrement en accord avec le Père, et la parole était Dieu. Ainsi, il y a beaucoup de répétitions dans l'évangile de Jean, et des répétitions qui sont très importantes. Dans ces versets, il dit des choses deux fois pour les souligner, et pour que ces choses soient claires, pour nous montrer l'importance de ces choses, de comprendre ces choses d'une manière littérale. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ceci n'aurait pas pu être plus clair. Et au verset 2, elle était au commencement avec Dieu, cette répétition, le Père et le Fils et bien sûr le Saint-Esprit, qui n'est pas mentionné en particulier ici. Ainsi nous commençons avec Christ qui est la parole. Et ensuite, nous continuons immédiatement en parlant de Christ qui est le Créateur, au verset 3. C'est là la préface, l'introduction de cet évangile. Et nous allons considérer rapidement ces choses qui seront développées plus tard dans l'évangile. Toutes choses ont été faites par lui. Et ensuite cette répétition, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Oui, c'est une amplification, c'est une forme de répétition. Toute chose a été créée par lui, par Christ. Parmi les membres de la Trinité, bien sûr, un seul Dieu détermine le fait de créer et décide de créer. Mais Christ est celui qui crée, c'est lui qui fait cette œuvre de création en entier. Et dans Colossiens chapitre 1, rapidement au verset 15, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui, les hommes, les anges. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Il soutient toute chose. Ainsi, Christ est le Créateur. Et ceci est souligné non seulement par l'apôtre Paul ici, mais également dans cette lettre aux Hébreux au chapitre 1. Écoutez ces paroles extraordinaires. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et au verset 10, « Et encore, c'est toi, Seigneur, qui as fondé la terre dès le commencement, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Et j'en reviens à Jean chapitre 1, au verset 3, « Toutes choses ont été faites par lui. » Et ceci sera tellement important. Et cette préface commence là, au début, parce que bientôt vous allez lire comment il est devenu homme, il est venu du ciel sur cette terre, il s'est humilié tellement dans son amour si immense et incomparable. Il est venu dans un corps humain pour nous représenter, pour être humilié à notre place. et pour souffrir, pour mourir pour les pécheurs. Mais avant d'en arriver là, vous devez lire que toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait, de ce qui existe, n'a été fait sans lui, sans sa puissance. Comment est-ce que nous pouvons douter de lui, chers amis, en tant que chrétiens, qui sommes sauvés par la grâce de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons avoir peur, être dans la crainte et être plein de peur dans nos circonstances difficiles, quand notre Seigneur et Sauveur est celui qui a tout créé? Et au verset 4, ce verset si merveilleux par rapport à Christ, qui est la fontaine de la vie et de la lumière, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la source de toute vie, de toute forme de vie, la vie animale. Mais la vie animale n'est pas ce que l'apôtre Jean a à l'esprit ici, c'est la vie de l'homme qu'il mentionne en particulier, la vie consciente de l'homme. Il est la source de ceci, la vie de l'âme également et de la conscience. Et cette vie consciente et cette vie spirituelle, si vous avez la vie spirituelle, si le Seigneur vous la donne, ceci vient de Christ, cette vie éternelle. La lumière des hommes vient de Christ. C'est là ce qui est unique dans l'être humain, cette capacité de raisonner, de réfléchir. Ceci vient de Christ. Il ne l'a pas donné aux animaux, mais il l'a donné à l'être humain. Et en plus de ceci, il y a cet instinct spirituel qui est donné à chaque homme. Cet instinct intérieur qui nous dit que nous sommes des êtres créés, qu'il y a un Dieu au ciel, qu'il y a la vie après la mort, qu'il y a la vie éternelle, cet instinct extraordinaire. Et dans notre folie, nous essayons de rejeter cet instinct si nous le pouvons. Mais ces instincts nous sont donnés par Christ comme cette lumière dans notre âme pleine de ténèbres. Et s'il y a une œuvre de grâce dans nos cœurs, il y a la vie spirituelle, la lumière spirituelle. Il est l'auteur de toutes ces choses au verset 4. En lui était la vie. C'est inhérent en lui, la fontaine de la vie. Toute vie vient de lui. Il est la source de toute vie. Et la vie était la lumière des hommes. Quelle lumière est-ce que les hommes ont? Oh, l'homme a la capacité de réfléchir, cet instinct de Dieu également. Et tant nous est donné par Christ. Et le verset 5 nous parle de la chute de l'homme, qui n'est pas mentionné en particulier, mais ses résultats, ses conséquences de la chute de l'homme sont mentionnées ici, et la lumière a lui dans les ténèbres. Et les ténèbres sont entrées dans le monde, et le péché est entré, le péché qui obscurcit et qui veut le mettre de côté, le rejeter, et le polythéisme est entré. Et dès le début, les gens ont préféré ces choses superstitieuses, de croire dans toutes sortes de dieux, de déités, au lieu de croire dans le seul vrai Dieu, le Créateur. Les ténèbres sont entrées, et la rébellion humaine, et l'ignorance de Dieu, et la lumière à lui, dans les ténèbres, même dans les ténèbres. Et vous pouvez voir ceci, dès le début de l'histoire humaine, il y avait ceux qui connaissaient Dieu, qui marchaient avec lui, et il y avait cette grande tradition qui a démarré, cette tradition orale au début, d'une manière certaine, depuis nos premiers parents jusqu'aux patriarches, avant le déluge et après l'histoire de la grâce. Et nous lisons ceci dans le livre de la Genèse. Tout ceci a été donné par Moïse, il a été inspiré pour écrire l'histoire de l'humanité. Mais vous voyez que Dieu œuvrait dans les cœurs dès le début, et vous voyez la rébellion de l'homme, et la lumière brille et resplendit. Les gens sont sauvés, sont amenés dans le royaume de Dieu. Par exemple, Abraham, qui a été appelé hors de l'idolâtrie, qui a été appelé par Dieu pour faire ce voyage, pour suivre le Seigneur, il y a cette lumière même dans les ténèbres. Cette lumière continue à luire et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière a lui dans les ténèbres. au verset 5, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne veulent pas le recevoir, le comprendre ou recevoir Christ. Cette lumière, un seul Dieu, un Dieu de miséricorde, les ténèbres ne veulent pas écouter les messagers que Dieu envoie. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Et de même aujourd'hui, combien de prédicateurs prêchent? Et la Bible est prêchée partout, est publiée partout, la parole de Dieu est publiée. Et il y a ces émissions partout, à la radio, à la télévision. Tout le monde dans ce monde occidental est conscient de l'existence de la parole de Dieu. Et cependant, tant de ténèbres, des gens connus, célèbres, des gouvernements, des gens qui ont une éducation importante, qui ont tant d'influence, ne comprennent pas ces choses, ne comprennent pas les choses fondamentales de la parole de Dieu, la chute de l'homme, la sainteté de Dieu, la gloire de Christ et sa venue sur la terre, ce qu'il a fait et pourquoi il est venu. Et ces choses leur sont enseignées. Et pour nous également, ces choses nous sont enseignées et nous ne comprenons pas jusqu'au jour où il nous parle, il nous donne cette lumière et nous comprenons cette ignorance de ces gens si intelligents, si grands, si capables. Ceci est étrange. Sans la grâce de Dieu, il y a les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Que ce soit dans un palais, que ce soit dans un bâtiment qui représente le gouvernement, les ténèbres ne comprennent pas Dieu et l'Évangile et le chemin du salut. Au verset 5. Et ensuite, vous en arrivez au verset 6. Il y a là le messager de Christ. Il y eut un homme, Jean, qui fut envoyé de Dieu. Oh, combien la parole de Dieu inspirée utilise les bons termes. Il y eut un homme. Oh, comment ceci est en opposition avec les premiers versets. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et à présent, il y eut un homme. Quel changement! Uniquement un homme, seulement un homme, c'est Jean-Baptiste qui a été envoyé de Dieu. Il n'est pas venu par lui-même, il est bien différent de Christ, mais il a été envoyé par Christ, mis à part. Simplement un homme, et son nom était Jean, qui signifie « Dieu fait grâce ». Quel nom approprié qui lui a été donné par un ange. Dieu est plein de grâce et miséricordieux parce qu'il est celui qui est le messager, qui précède Christ, celui qui est plein de vérité et de grâce. Au verset 7, il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Malachie 3, verset 1, cette grande prophétie du messager. Avant le Messie, c'était Jean-Baptiste. Il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui, c'est-à-dire par Jean-Baptiste, qu'ils puissent croire en Christ. C'est là la signification de l'original. Afin que tous, toute personne, c'est-à-dire dans sa génération, dans son pays, parmi les Juifs, que par lui, ils puissent croire. Bien sûr, ils n'ont pas cru. Mais Jean a amené un tel changement. Ne sous-estimez pas le message de Jean-Baptiste, de grandes foules sont venues pour l'écouter. Tant de personnes ont été baptisées par lui et ils devaient dire dans leur baptême qu'ils recevaient le Messie. Et Jean prêchait, il était celui qui précédait le Messie parce que le Messie allait venir bientôt. Il était connu partout, tout le monde entendait parler de lui. Il était si populaire au point culminant de sa puissance que même les pharisiens, les scribes et les chefs des Juifs de Jérusalem ont dû aller et écouter Jean-Baptiste et le respecter et lui rendre hommage. Ceci est extraordinaire. Toute la population de ce pays savait que le Messie allait venir et qu'il était arrivé. Ils le savaient parce que Jean prêchait ceci. Pourquoi alors ils étaient si endormis et si contre Christ, quand il est apparu parmi eux en faisant des miracles extraordinaires, parce qu'ils étaient touchés par la prédication de Jean, ils savaient tous que le Messie était là. Mais ils n'ont pas compris ces choses, ils ne voulaient pas le Messie. Ne sous-estimez pas l'influence de Jean-Baptiste. Tous les Juifs savaient que Christ, le Messie, était arrivé. Mais ils n'ont pas écouté. Verset 8, « Il n'était pas la lumière. » C'est une répétition à nouveau. L'auteur inspiré se répète ici pour que ceci soit clairement écrit pour nous. « Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. » Et ensuite, le verset 9, « La véritable lumière, la lumière authentique, la vraie lumière, bien sûr, le seul qui n'est pas seulement lumière en lui-même, mais qui communique la lumière également et donne la lumière, la compréhension, qui était la véritable lumière dans le sens de ces ombres de l'Ancien Testament. Pendant des années, les Juifs avaient la loi cérémonielle avec toutes ces illustrations, ces images, ces ombres de l'Ancien Testament qui étaient simplement une représentation, une illustration de ce grand sacrifice qui allait venir, de cette grande œuvre du Messie. Mais voyez-vous, à présent, le Messie est venu lui-même. Il n'y a plus d'ombre de l'Ancien Testament, mais c'est la vraie lumière, l'accomplissement de toutes ces illustrations de l'Ancien Testament. C'est là ce que l'apôtre Jean veut dire ici, la véritable lumière qui éclaire tout homme, le vrai Messie qui est illustré dans toutes les cérémonies de l'Ancien Testament. Il est arrivé. La véritable lumière qui éclaire tout homme étant venu dans le monde. Chaque homme est éclairé par Christ dans le sens où chaque homme a la capacité de raisonner, de réfléchir et un instinct pour Dieu, un instinct pour les choses éternelles, une conscience qui opère. Chacun a toute cette lumière particulière qui n'est pas donnée aux animaux, bien sûr. Cette lumière vient de Christ, de leur Créateur. Et nous prions que de plus en plus, ces gens et la vie, la lumière qui sauve, la lumière éternelle également. Au verset 10, « Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, mais lui, le monde ne l'a pas connu. » Cette chose tragique, nous commençons ici par Dieu, nous parlons de la création, et quand nous arrivons au verset 10, « Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, mais lui, le monde ne l'a pas connu. » C'est là la tragédie de l'être humain. Au verset 11, et c'est encore pire, « Il est venu chez les siens, les Juifs. » Vous avez comme une image ici de quelqu'un qui est là, à l'extérieur, dehors, il fait froid, et il y a un vent froid. Et vous rentrez dans votre maison, votre propre maison. Et là, vous avez votre famille et les gens devraient vous accueillir chaleureusement. C'est là votre maison, c'est là ceux qui sont votre famille, ceux qui vous connaissent si bien. Mais chacun est froid et vous ignore et vous rejette. Oh, ceci ne peut pas se passer. Mais c'est là l'image que nous voyons dans ce verset. Il était dans le monde, ce monde froid, et le monde ne voulait pas le recevoir et le connaître. Ainsi, il est venu dans cette nation qu'il a attendue, et pendant des siècles, de siècle en siècle, il les a protégés, les a bénis, leur a donné des grands enseignants, des prophètes, des miracles, les a aidés, les a bénis, et leur a pardonné tant de fois. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Le rejet de Christ, pourquoi a-t-il été rejeté par les Juifs? Pourquoi? Parce que il n'a pas accompli leur attente charnelle et terrestre. Parce que eux, ils avaient changé cette attente du Messie qui devait venir pour les sauver de leurs péchés. Et ils avaient changé en cela. Ils attendaient un Messie politique pour les sauver des Romains, pour les rendre prospères à nouveau et riches. et bénir leur nation, pour leur donner l'attention du monde entier et une bonne position dans le monde. C'est là ce qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas un sauveur qui est venu comme homme pauvre, qui prêche et qui faisait ces miracles extraordinaires. Est-ce que ces miracles n'allaient pas les convaincre? Oh, peut-être. Dans toutes les familles, il y avait des gens qui étaient malades ou possédés de démons. Dans toutes les familles, il y avait ces gens qui étaient guéris par Christ. Est-ce qu'ils ne se réjouissaient pas? Non, parce que malgré tous ces miracles extraordinaires qui affectaient la vie de tout le monde, ils prêchaient également la repentance, la rémission des péchés, et ils ne voulaient pas entendre cela. Ainsi, ils ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté. Il n'a pas accompli leur attente terrestre, mais il est venu avec la repentance, la réconciliation avec Dieu. Il est venu comme un sauveur, mais il disait, nous n'avons pas besoin de sauveur, nous sommes descendants d'Abraham, nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Et quand il parlait de bénir les non-juifs, alors il haïssait ceci encore plus. Non, seuls nous, nous sommes bénis. Nous nous confions dans nos prêtres juifs, nos bonnes œuvres. Nous sommes descendants d'Abraham, nous nous confions en cela. Ceci nous donne la faveur de Dieu. Il ne voulait pas la repentance, un sauveur. Il ne voulait pas s'humilier devant Dieu et chercher la miséricorde de Dieu et le pardon. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais au verset 12, malgré tout, il va sauver des millions et des millions de personnes. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui l'ont embrassé, qui l'ont reçu, qui dépendent de lui, il leur a donné le droit ou la puissance, le droit, le privilège d'être fait enfant de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Qui croient en son nom, c'est-à-dire dans sa personne, dans son œuvre, son nom, le nom du Messie, son nom qui est le Sauveur. Même à ceux qui croient en lui, il est mon Sauveur. Il a souffert, il est mort pour mes péchés. Il est mon médiateur entre moi et Dieu. Il va restaurer mon âme, ceux qui se repentent de leurs péchés, qui se confient en lui. À tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le droit d'être fait enfant de Dieu. Quand j'étais sauvé, quand j'étais un jeune chrétien, quelqu'un m'a dit que l'ordre du salut est ici. La première étape, c'est le verset 12 et la deuxième étape est le verset 13. Ceci semble logique. Le verset 13 est après le verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être fait enfant de Dieu, c'est-à-dire, en résultat, verset 13, « Ils sont nés de nouveau, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Ainsi, cette image du salut qu'on m'a enseignée au début, c'est que si vous recevez Christ par votre propre volonté et que vous décidez de le suivre, que vous croyez en lui, alors vous serez né de nouveau. Ainsi, vous avez besoin de recevoir Christ. Mais ensuite, peu de temps après cela, quelqu'un m'a dit « Non, c'est là le mauvais ordre. » Le verset 13 suit le verset 12, oui, mais ceci parle de quelque chose qui se passe en premier parce que le verset 13 explique le verset 12. Et j'aimerais vous montrer ceci. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit, la puissance, le droit d'être fait enfant de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. » Alors vous dites, pourquoi est-ce que ces gens ont cru? Pourquoi est-ce que tant de gens n'ont pas cru? Et cependant, ces gens-là ont cru. Est-ce qu'il y avait quelque chose de bon en eux? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'intelligent en eux? Est-ce qu'il y avait plus de discernement en eux? Isaac Watts écrit ceci dans un cantique. « Pourquoi est-ce que j'ai été amené à entendre ta voix et à entrer alors qu'il y a de la place? Parce que des milliers de personnes font le mauvais choix et préfèrent mourir de faim que de venir. Pourquoi est-ce que j'ai compris l'Évangile et j'ai compris mon besoin de Christ ?» Le verset 13 explique ceci. C'est parce que ces gens, voyez-vous, sont nés de nouveau, nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu a fait quelque chose en premier. Le verset 13 explique le verset 12. Dieu a ouvert le cœur. Dieu a mis cette semence de la vie en eux. Dieu réveille nos âmes pour que nous soyons convaincus de péché, que nous réalisions ce que Christ a fait. Et alors notre volonté nous amène à venir à lui. Il incline notre volonté et nous prions « Seigneur, sauve-moi ». Mais c'est parce que Dieu œuvre en premier, sinon nous ne nous serions jamais tournés vers lui. « Oh, mais pasteur, comment est-ce que je peux être sûr ?» Parce que le verset 13 suit le verset 12. Et maintenant, vous me dites que ceci parle de quelque chose qui se passe en premier, que c'est l'explication de ce qui passe au verset 12, mais comment est-ce que je peux être sûr que vous avez raison? Souvenez-vous que nous avons commencé en disant que c'est une préface, que ceci introduit l'évangile de Jean, qu'il y a une petite mélodie ici qui est développée plus tard dans l'évangile de Jean. Et ainsi, nous interprétons les versets 12 et 13 à la lumière de ce qui est développé dans l'évangile de Jean plus tard. Et ceci nous certifie que le verset 13 est une explication du verset 12. Dans Jean chapitre 6, par exemple, au verset 44, et c'est là l'un des exemples, parmi beaucoup d'exemples dans l'évangile de Jean, c'est ainsi que Dieu l'exprime. « Personne ne peut venir à moi, dit Christ, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a écouté le Père et a été instruit par lui, vient à moi. » Ainsi, cette mélodie qui est là dans la préface est développée dans l'évangile de Jean. Que Dieu, dans sa miséricorde, œuvre en premier et il œuvre dans notre volonté et ouvre nos cœurs, et alors nous réalisons notre besoin de lui. Nous sommes convaincus de péché et nous croyons en Christ et nous venons à lui. Ainsi, nous comprenons les versets 12 et 13 à la lumière de ce qui suit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être fait enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Mais comment est-ce qu'ils ont cru qu'ils ne sont point nés du sang? Je suis un fils d'Abraham. Ma race va me sauver. Je suis un juif. Je descends d'Abraham. Non, point du sang. Ils ne cherchaient pas le Seigneur, nécessairement, ni de la volonté de la chair, non pas par les œuvres, non pas par nos propres œuvres, nos efforts, ni de la volonté de l'homme, non pas par ma propre décision, comme si j'avais la capacité, la puissance de décider, parce que ma volonté est toujours contre Dieu, parce que mon cœur est si corrompu et tordu, mais né de Dieu, Dieu œuvre en premier. Il y a cette œuvre de régénération dans les cœurs qui me transforme, qui ouvre mon cœur. Et ensuite, au bon moment, alors que je crois en Christ, que je me repens de mon péché, alors je suis né de nouveau, d'une manière consciente, comme la naissance d'un enfant, la conception qui commence ce processus, parce que c'est là le moment même où ceci commence, ceci est secret, l'enfant est conçu à l'intérieur, et ensuite il y a la naissance. Dieu commence cette œuvre, et moi, je réalise mon besoin, je suis touché, j'apprends ces choses de Christ, j'aspire à lui, je crois en lui, je me repens, je le reçois. Et alors, je suis né de nouveau, consciemment. Mais ceci, c'est Dieu qui démarre cette œuvre. Le verset 13 explique le verset 12. Et ensuite, le verset 14, si glorieux, la venue de Christ et la parole a été faite chair. Il n'a pas cessé d'être la parole quand Dieu est devenu homme, et il n'a pas cessé d'être Dieu, mais il est venu dans une chair humaine, dans une personnalité humaine. Il a pris une nature humaine. En plus d'avoir cette nature divine, il est devenu celui qui nous représente et il a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, dit Jean. Il se réfère là à la transfiguration sur la montagne, quand ils ont vu Christ, sa gloire, et Christ dans toute sa gloire divine. Nous avons contemplé sa gloire, mais d'autres ont vu sa gloire, ceux qui n'ont pas vu sa transfiguration, parce qu'ils ont vu sa nature même, ils ont vu sa vie, ils n'ont jamais vu un homme si pur, si parfait, si saint, qui ne s'est jamais mis en colère, qui n'a jamais dit une parole qu'il n'aurait pas dû dire, qui n'a jamais été cruel, qui n'a jamais été méchant, qui ne pensait pas à lui, mais constamment aux autres, qui était si plein de sagesse, qui a dit des choses si profondes, qui connaissait toutes leurs pensées. Ils ont vu sa gloire. Même ceux qui n'ont pas été témoins de la transfiguration sur la montagne pouvaient dire qu'ils ont contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Le seul, le Fils unique, ce terme Fils unique, uniquement les êtres humains sont fils. Nous avons un Père, une Mère. Christ n'a jamais été Fils dans ce sens-là, parce qu'il n'y a jamais eu ce moment dans l'éternité passée où Christ n'existait pas, parce qu'il est Dieu, avec le Père, toujours, toujours, il y a eu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ces trois personnes dans une naissance divine, dans la Trinité divine. Dieu ne peut pas changer, il est immuable. Est-ce que Dieu a changé? Non, alors il ne serait pas parfait. Parce que s'il changeait pour être meilleur, alors il n'aurait pas été parfait avant de changer. Un seul Dieu, trois personnes dans la Trinité, le Fils éternel. Ainsi, les théologiens parlent de Christ qui est Fils éternellement, ce qui est vrai. Mais si vous êtes Fils, alors ceci veut dire qu'à un moment donné, vous n'existiez pas. S'il a été Fils de manière éternelle, ce qui est le cas, alors ce terme Fils ne doit pas suggérer à notre esprit qu'il y a eu un moment où il n'existait pas. Mais ceci suggère quelque chose de bien différent. Ceci suggère cette relation si proche entre les membres de la Trinité, le Père et le Fils, leur identité, leur intimité, leur proximité. Et vous vous imaginez l'image d'un roi au temps de la Bible qui avait un fils adulte qui régnait avec lui. Il y avait cette co-régence, ils régnaient ensemble, tous les deux sont rois. Et ils sont intimes, entièrement fidèles l'un à l'autre. Ils sont un en toutes choses, le Père et le Fils. Ceci nous fait penser à cet amour, cette intimité, cette proximité. Et non pas à l'un étant supérieur à l'autre. Certaines personnes enseignent la soumission éternelle du Fils. Le Fils était soumis au Père quand il était sur cette terre parce qu'il nous représentait nous et qu'il vivait une vie de perfection à notre place. Il se soumettait au Père, mais ceci était uniquement alors qu'il était homme et Dieu sur cette terre. Il se soumettait volontairement à l'autorité du Père, mais avant qu'il ne vienne et alors qu'il est retourné au ciel après son ascension, il était égal au Père. Ce n'est pas cette obéissance, cette soumission au Père, non, ils sont égaux en tout aspect. Et certaines personnes disent même que l'intercession de Christ pour ses enfants dans toute l'éternité est un exemple de la soumission du Fils au Père. Mais l'intercession de Christ est un symbole pour nous. Christ est mort pour nous à la croix. Il a offert sa justice parfaite et il a pris la condamnation pour nos péchés. Il a dit « Tout est accompli », c'est là son intercession. Et alors qu'il est au ciel et qu'il montre ses blessures dans son corps glorifié, sa présence même au ciel, C'est là ce qui intercède pour nous, qui nous représente. L'efficacité de ce qu'il a accompli à la croix du calvaire dure pour l'éternité. Il intercède pour nous, c'est sa présence même au ciel qui intercède, parce qu'il est celui qui a porté notre condamnation et qui nous impute sa justice parfaite. Il ne parle pas littéralement au Père comme s'il plaidait pour nous, qu'il intercédait pour nous. Il est égal au Père et son accomplissement est là, dans ses blessures, dans son corps glorieux. Et ceci est efficace pour toute l'éternité. Ainsi, il n'y a pas cette idée du Fils qui plaide devant le Père. Non, il est égal au Père. La parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité, plein d'amour pour les pécheurs et de compassion et de bonté, plein de vérité. Celui qui est le seul vrai Dieu et qui est le seul chemin du salut. Oh, si je pouvais passer plus de temps sur la gloire de Christ, chers amis, mais nous pouvons le louer et chanter pour lui alors que nous en arrivons au dernier cantique.